Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous avez passé une belle longue fin de semaine et que vous n'avez pas été affecté par la tempête, par les tornades et les orages. Écoutez, en fin de semaine, il y a une image qui a beaucoup circulé et que je trouve extrêmement troublante. Ce sont donc ces images des femmes présentatrices à la télévision afghane. Les talibans les ont forcées, les ont obligées à se cacher presque complètement le visage. On aperçoit simplement un tout petit peu de bout de front, un petit peu de leurs deux yeux. Le reste de leur corps est complètement caché sous un tissu noir. Personnellement, comme être humain, comme féministe, ces images-là me donnent des frissons dans le dos. Et ce qui me trouble encore plus, c'est la réaction des féministes occidentales. Voici la réaction des féministes occidentales à ce qui s'est passé en fin de semaine avec les talibans. Ben oui, on les a pas entendus. Quand vient le temps de dénoncer le patriarcat, quand vient le temps de revendiquer le fait, au mois de mai, de se laisser pousser le poil en dessous des bras puis sur les jambes, quand vient le temps de dénoncer les méchants hommes qui prennent trop de place dans le métro, de méchants hommes qui interrompent les femmes dans des réunions, le mansplaining, le manspreading, les femmes velues, quand vient le temps de se poser sur ces, vraiment de se positionner sur ces questions vraiment percutantes? Ah, les féministes occidentales, elles sont toujours là, elles répondent présent. Quand vient le temps de dénoncer ce qui se passe en Afghanistan, les talibans qui veulent rendre les femmes afghanes invisibles, voici la réaction des féministes occidentales. Quand j'ai vu ces images-là passer en fin de semaine, j'ai poussé un terrorisé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
En fin de semaine, c'était le festival Métro, un festival de musique de rap, de hip-hop. On en a beaucoup, beaucoup entendu parler pour différentes raisons. Des invités qui ont annulé à la dernière minute, des invités qui ont dû être remplacés aussi à la dernière minute, mais aussi pour des raisons de sécurité. Vous avez peut-être vu des images qui ont circulé beaucoup sur TikTok, sur Instagram, des problèmes de sécurité. Ça soulève toutes sortes de questions. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui a accepté de répondre à nos questions. Donc, c'est toujours apprécié quand quelqu'un est un petit peu dans l'actualité et qu'il accepte de répondre aux questions des journalistes. C'est Olivier Primo, donc homme d'affaires bien connu, qui est l'organisateur de ce festival-là. Olivier, bonjour.
Bon matin.
Olivier, quand je vois, par exemple, dans le Devoir, écoute, c'est rare que le Devoir se mette à parler de ce genre de dossier-là, hein? Quand l'auguste Devoir parle de dérapage au festival Métro à cause de questions de sécurité, des gardes de sécurité qui ont été bousculés, des barrières qui ont été renversées, beaucoup de bruit dans le quartier, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'il y a eu vraiment un gros problème de sécurité au festival en fin de semaine?
Premièrement, on en a entendu beaucoup parler aussi parce qu'on a eu un rayonnement médiatique énorme. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié le festival, mais je veux pas me cacher non plus derrière des réponses politiques comme ça. On a eu un problème de sécurité. Je pense pas qu'il manquait d'agents de sécurité. Je pense plus que c'était les débordements qu'on s'attendait pas. On a plein de choses à travailler pour l'année prochaine. On est déjà là-dessus. On a déjà un meeting avec la sécurité, puis tout le monde accepte ses torts, puis tout le monde accepte aussi le fait que c'est deux ans post-pandémie, les gens, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas sorti, puis surtout, c'est beaucoup, c'était leur premier festival, ils n'avaient pas vécu. L'Esplanade, c'est pas un site facile à gérer, beaucoup de points d'accès, malgré les clôtures et la sécurité. Puis tu sais, c'est la deuxième année qu'on a travaillé sur ce site-là. C'est pas un site facile à travailler, comme j'expliquais, c'est surtout dans un quartier résidentiel. Juste une petite parenthèse, je pense qu'on n'a même pas eu 5 plaintes de son. Fait que ça, c'était vraiment pas
un truc
là, ouais, exactement. On n'a vraiment pas eu beaucoup de plaintes de son. Bon, on a eu des plaintes des citoyens que après il y a eu des débordements. C'est-tu nous qui avons mal fait la, la circulation après festival, sûrement, là, ça va être à voir, on est en train de regarder ça.
Mais, il y avait combien?
J'ai eu énormément aussi des résidents qui m'ont écrit et des journalistes aussi qui se sont pas juste défoulés là, sans m'écrire personnellement. Beaucoup de journalistes qui habitent dans ce coin-là qui m'ont dit, moi j'étais sur mon balcon tout le week-end puis j'ai chanté. Ça n'excuse pas les débordements, 100%, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi. Là.
D'accord. Alors juste pour bien comprendre, toi, à titre d'organisateur de festival, tu avais engagé combien de gardes de sécurité?
Écoute, c'est un chiffre là, que je peux pas te nommer comme ça parce que je veux pas te dire n'importe quoi, mais c'est des centaines. Puis en fait, c'est un nombre là, d'agents de sécurité suggéré là, par les services de police, puis la capacité que les pompiers nous donnent. Fait que tu sais, c'est pas on met pas notre doigt dans les airs là, puis on y va au hasard.
D'accord.
Fait que c'est vraiment bien calculé là.
Mais est-ce que ça veut dire que en regard des débordements, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à rentrer sur le site, donc oui, de l'esplanade devant le stade olympique, ça veut dire que donc vous êtes rendu compte par la force des choses qu'il n'y en avait pas suffisamment, mais est-ce que vous auriez pas dû être plus vigilant? Je t'explique pourquoi. Tu le sais, évidemment, on a tous en tête ces images d'un festival aux États-Unis, la tragédie, hein, le festival Astroworld à Houston. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été piétinés, asphyxiés dans la foule, certains des mineurs, écoute, il y a eu beaucoup de blessés. Il me semble que quand on a vu ce qui s'est passé à Astroworld, puis qu'on organise un festival un petit peu semblable, la sécurité devrait être au cœur de nos préoccupations, Olivier.
En fait, la sécurité, c'est le cœur de la préoccupation, là. C'est la plus grosse, mais là, je m'en ai dit, plus grosse dépense, plus gros investissement, là, si je peux dire, c'est ce qui coûte le plus cher, après, bien sûr, les artistes. Puis tu sais, c'est pas... un genre de Astro World qu'on a eu, c'est ça exactement, en beaucoup plus petit, mais c'est le même genre d'artiste. Puis je vais vous dire, ben franchement, on s'attendait pas à un débordement comme ça, un engouement énorme comme ça. Tu sais, je parle à tous les organisateurs de festivals au Québec, personne n'a jamais vu ça, un gros festival comme ça après 2 ans. Fait que tu sais, l'engouement des gens qui sont par-dessus les clôtures, bon, est-ce qu'il manquait d'agents de sécurité? Oui. Mais on s'attendait pas à ce que des gens escaladent des murs de 15 pieds. On était rendu là. Fait que tu sais, c'est plus ce genre de débordement-là qu'on a eu beaucoup de misère. Il suffit des débordements là, dans la foule. Il y en a eu dans les années 70-80 avec le rock. T'sais, on n'est pas le premier et on sera pas le dernier festival à avoir des moches pits non plus. Il faut pas qu'on se compte des mantris ce matin. Là. Mais
explique parce que il y a peut-être des gens qui ont plus de 25 ans qui écoutent en ce moment, puis ils ont aucune idée c'est quoi un mosh pit. Puis il faut expliquer aussi ce qu'est un mosh pit, puis expliquer pourquoi t'es intervenu à un moment donné pendant la fin de semaine, parce que ça brassait trop. Explique-nous ça.
Exact. Un mosh pit, là, c'est les gens, ils font un gros cercle, ils se retirent, puis là, quand la musique recommence, tout le monde se rentre dedans. C'est les gros bands de rock là, qui ont, dans les années 70, qui ont rendu ça populaire. Puis j'ai fait une intervention, mais ça se fait souvent, là, c'est pas juste nous, là. Ça se fait dans tous les festivals, là. Quand ça commence à brasser, là, souvent l'animateur dit OK, tout le monde se calme, on arrête la musique 5 minutes, on recule, tout ça. Là, c'est juste que c'est moi qui est embarqué sur scène parce que je tiens à la sécurité de mes festivaliers. Fait que non, mais ça, c'est normal, là. C'est pas quelque chose qui me stresse. Ce qui me stresse vraiment, là, c'est les débordements, là, comme t'expliquais tantôt, là, des gens qui rentrent partout, qui essaient de sortir de partout. Fait que c'est plus ça qui me stresse que d'autres choses.
D'accord. Il y a, sur les médias sociaux, il y a des gens, des femmes qui ont dit, ben moi je me sentais pas en sécurité quand un des spectacles, il y avait pas assez de sécurité autour, je me sentais pas en sécurité de rentrer chez moi parce qu'il y avait beaucoup de gens en état d'ébriété. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Dans quelle mesure toi tu peux être tenu responsable entre guillemets de ce genre de débordement-là? Ce manque de sentiment de sécurité aux alentours après le festival?
Ben encore une fois, là, vu que c'est dans un quartier résidentiel, je pense que l'année prochaine, le gros objectif va être vraiment de contrôler la foule à la sortie. Fait que tu sais, je veux pas qu'on nous mette tout le blâme parce que des gens là, qui sortent en état de briété, il y en a partout à Montréal tout le temps, dans des gros événements aussi. Bon, c'est sûr que, comme je vous disais, là, c'est un site qu'on commence à comprendre puis à apprendre à travailler. Fait que l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir plus de corridors de sortie pour que les gens aillent moins, justement, là, dans le quartier résidentiel. Puis je comprends parfaitement là, le message, moi aussi, je l'ai vu le tweet, et je comprends la frustration à 100%. T'sais, on n'est pas là non plus pour dire on n'est pas là pour le blâme, c'est les gens qui sont responsables d'eux autres. Non, on est responsable que les gens soient en sécurité. Fait que ça va être un truc à travailler pour l'année prochaine aussi. Là.
Est-ce que je peux te poser la question suivante? S'il y a tant de problèmes que ça avec l'esplanade devant le stade olympique, pourquoi vous ne changez pas d'emplacement?
Je me l'ai fait poser souvent. Premièrement, tu sais, encore une fois, je vais leur dire, là, on commence à travailler avec ce site-là. Comme à l'époque, le parc Jean-Drapeau était le premier, puis il y a eu des débordements, puis il y a eu des plaintes de son de l'autre côté. T'sais, ça a pris une dizaine d'années avant que tout soit fixé. Fait que là, c'est sûr qu'en ayant un site comme l'esplanade qui est magnifique, qui est sous-estimé, nous, on est allé là parce qu'on voulait redonner aussi le comment je pourrais dire ça, là, l'effervescence du quartier, qui est un petit peu à désirer là, depuis des années. Fait que oui, la question est très légitime. Pourquoi on reste là? Probablement parce que c'est un site magnifique. Puis, est-ce qu'on va rester là? Nous, on le souhaite. Est-ce qu'on va changer de place sur l'esplanade ou dans l'espace du stade olympique? On va-tu aller entre le stade Saputo et le stade olympique, qui est beaucoup plus facile de contrôler? La capacité est plus grosse pour nous. C'est beaucoup plus facile à gérer. Pourquoi pas? C'est toutes des questions qu'on se pose en ce moment-là.
OK. Au plus fort du festival, il y avait combien de personnes sur le site selon tes estimations?
Donc, on a eu 70 000 personnes à peu près là, sur 3 jours. Fait que si on fait la moyenne, là, c'est entre 20 et 25 par jour. Et la capacité était plus que ça. Là. On pouvait accueillir plus de personnes. Puis on a arrêté de vendre des billets à un moment donné, là, justement, parce qu'on n'avait jamais eu autant de personnes sur ce site-là. Puis on voulait voir comment ça se passait. Puis sur le site en tant que tel, là, si on oublie le dance floor, là, des débordements de mosh pit sur le site en tant que tel, ça s'est très très bien passé. La circulation, il y avait de la place en masse. C'est juste que c'est le après là et le avant là, les gens qui escaladaient des murs de 20 pieds, les gens se montaient sur les épaules pour rentrer gratuit. Bon, ça m'a fait une bonne pub parce que l'année prochaine, ceux qui sont allés gratuitement vont vouloir payer pour y retourner.
Il va falloir que tu mettes des murs de 30 puis 35 pieds, c'est ça la morale de l'histoire.
Mais les gens ont vraiment escaladé là, c'était fou. Puis sur TikTok, tu sais, je sais que ça paraît un petit peu drôle, mais les gens rentraient puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse rendu là, qu'ils viennent s'amuser les jeunes. Puis l'année prochaine, ben l'année prochaine on va leur charger, c'est tout.
Écoute, est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez craint pour vraiment l'intégrité physique des gens qui étaient sur le site?
Non, on n'a pas craint du tout. Il y a eu des blessés. Je pense pas qu'il y a eu des blessés. Là, il y a eu des coups de chaleur puis tout ça parce qu'il a fait très chaud samedi. Mais non, l'infirmerie a été vide ou presque vide là, tout le week-end. Là, c'était vraiment des trucs mineurs.
D'accord. Bon, il faut, il fallait évidemment qu'on parle de la sécurité. Parlons aussi du contenu de tes têtes d'affiche. C'est quand même assez particulier parce que il y a une de tes têtes d'affiche qui a dû être retirée de la programmation la semaine dernière parce que il a été arrêté pour sa participation présumée, hein, pour l'instant, présumée à différentes activités criminelles de gangs de rue. Comment ça se passe? Toi, t'es organisateur de ce festival-là. On s'est croisés toi et moi à la première du spectacle du Cirque du Soleil et t'étais frénétiquement au bout de ton téléphone parce que ben il y avait une de tes têtes d'affiche qui pouvait plus venir. Concrètement, ça se passe comment? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui t'appelle en disant notre gars peut pas venir, il est accusé d'avoir fait 50 meurtres. Comment ça fonctionne?
C'est un truc comme ça, puis finalement on a eu deux des trois têtes d'affiche qui ont pas pu rentrer au Canada. Fait que tu sais, on voit le quand t'achètes un billet pour un festival là, de hip-hop, là, il faut que tu t'attendes à tu sais jamais qui va être sur la scène à la fin de la journée. Ça fait partie du show. Finalement, on s'est très bien retourné de bord. Puis je pense que notre programmation a fini encore meilleure qu'elle était au début. Puis non, finalement, à la fin, on est très, très content. Puis les agents d'artistes sont très, très gentils avec nous parce qu'on a un énorme pouvoir.
Donc, ça veut dire que la réputation de Métro-Métro, même si vous êtes juste à votre deuxième année, vous êtes quand même capable d'avoir des grosses têtes d'affiche parce que vous êtes retourné quand même sur un 10 sous pour aller chercher 50 Cent. La comprends-tu?
Exact. Oui, puis bon, on a un gros pouvoir parce que justement, on fait énormément de vêtements là, maintenant. Puis, tu sais, 50 Cent, je suis allé le voir juste avant son spectacle, puis j'ai dit merci de nous avoir sauvés, puis tellement content, ça me fait plaisir, j'avais rien à faire, puis la prochaine fois tu m'appelles, tu sais, c'est vraiment ce genre de relation-là maintenant qu'on a, puis il faut savoir aussi que dans le monde de l'hip-hop, là, les gens, ils sont très, très, comment je pourrais dire ça, très, très gentils, généreux, ils font pas beaucoup de festivals, vraiment pas beaucoup, tu sais, 50 Cent, la dernière fois qu'il a performé, c'était au Super Bowl, fait qu'ils sont bien contents, eux, ils vivent vraiment du streaming de leur musique, là, contrairement aux aux DJ là, qui stream moins, qui ont vraiment besoin de faire beaucoup, beaucoup de spectacles pour faire énormément d'argent. Les artistes hip-hop, c'est quand même la musique la plus écoutée au monde là, depuis à peu près 5-6 ans. Fait qu'il y a personne qui est dans la rue. Fait qu'on, quand ils peuvent nous dépanner, puis on a les moyens de les payer, ça leur fait plaisir.
Ça coûte combien avoir 50 Cent sur une scène à Montréal?
Son nom, c'est 50 Cent. Je vous laisse imaginer le nombre de zéros qu'il faut mettre après son nom.
C'est-tu 50 000, 500 000?
C'est plus 500 000, 1 million que 50 000.
OK. Donc, comment tu fais ton argent? Comment? Parce que tu nous dis donc des centaines de gardiens de sécurité, l'allocation de l'espace, tout le personnel, l'infrastructure. Si la moindre de tes têtes d'affiche te coûte 500 000 $, ça doit être un casse-tête financier quand même assez important.
Les gens réalisent pas à quel point c'est un événement organiser un festival comme ça. Je dis un événement parce que c'est des risques de millions de dollars, des millions, là, beaucoup de S. C'est un casse-tête financier, oui, mais tu sais, je vous laisse faire les mathématiques, là. 70 000 billets au prix qu'on les vendait, plus tout ce qui se vend sur le site. Fait que, je veux dire, on est capable de rentrer dans notre argent, mais un festival comme ça aussi, c'est des retombées économiques, tous les festivals au Québec puis dans le monde sont à la recherche de subventions, de commanditaires. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, on est capable de bien s'en tirer, mais c'est un risque financier là, gigantesque. Quand il annonce de la pluie pendant 3 jours, puis t'as pas tout vendu tes billets, là, tu dors très mal.
Est-ce que tu reçois de l'argent du gouvernement? Est-ce que tu reçois des subventions pour ton festival?
Cette année, un gros 5 000 $. Fait que y a personne qui peut me dire que c'est le gouvernement qui a payé ce festival-là cette année.
Attends 2 secondes, t'as reçu 5 000 $ du gouvernement provincial?
5 000 $. Et je vous laisse, je pense que le Festival de Québec reçoit 9 ou 12 millions, juste pour vous faire une comparaison. Mais on peut pas se comparer parce que c'est à notre deuxième année. Il faut prouver au gouvernement qu'on est là pour perdurer, puis je comprends. Fait que déjà qu'on a une petite subvention, ça veut dire que la porte est ouverte, on est bien content.
Excuse-moi. Non, je la ris parce que je trouve ça juste assez rigolo, parce que si on parle quand même en termes de, bon, évidemment, de retombées économiques. Une autre question, parce que les chiffres, ça m'intéresse. Est-ce que tu fais plus d'argent avec la vente d'alcool et de marchandises, de produits dérivés, ou avec les billets en tant que tel?
Les billets. C'est 90% des revenus, c'est les billets. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Tu sais, une fois que tu as tout payé, après ça, il n'y a plus vraiment de coût de marchandise avec un billet. Tandis qu'une bouteille d'eau, de l'alcool, puis tout ça, il y a tout le temps un coût là, à la marchandise. Fait que non, on sait vraiment que la vente de billets, là.
Ouais. Dis-moi, le bilan que tu fais de cette deuxième édition, tu vas prendre une couple de journée pour dormir d'abord, mais j'imagine que t'as pas beaucoup dormi pendant ces 3 journées-là.
Non.
Le bilan que tu fais, est-ce que ça donne le goût d'en faire une troisième édition, ou tu dis, ah, c'est trop de troubles, on va laisser ça à d'autres, je suis comme tanné?
Non, le trouble d'organisation, ça, j'adore ça, là. C'est un feeling qui est difficilement comprenable quand tu l'as jamais fait. Puis oui, on veut le refaire à 100%, mais le bilan est vraiment... tu sais, moi, j'essaye, tous les festivaliers, puis les dizaines de millions de personnes qui ont vu nos vidéos, eux, voient juste le positif. Nous, on doit avoir le négatif aussi, puis on doit s'améliorer. Mais tu sais, le bilan est très, très positif dans le sens de la popularité de l'événement, mais tout ce qui est la sécurité qui est le plus important, parce que tu sais, faut pas oublier que la sécurité... c'est ça qui peut faire, excusez l'expression, mais crasher un événement. Fait que c'est sûr que notre priorité l'année prochaine, ça va être que la sécurité soit vraiment dans un autre niveau. Puis je veux pas jeter la pierre à la sécurité parce qu'ils ont fait un job exemplaire à 99%. C'est juste que quand t'es débordé dans le coup, là.
Ouais. Mais en même temps, Olivier, si je peux me permettre, il faut pas que... il aurait pas fallu qu'il arrive quelque chose, que quelqu'un perde la vie et tout ça, pour qu'on se dise... Tu comprends? Vous êtes quand même chanceux que ces débordements-là n'aient pas mené à un Astro World. Et en tout cas, on reste quand même avec un malaise, parce que le pire aurait pu arriver. Et bon, comptons-nous chanceux que ça se soit pas produit, mais quand même, ça aurait été un peu trop tard de dire on aurait dû, puis on aurait pu, puis etc. Donc, faut vraiment s'assurer que l'année prochaine, ça se reproduise pas, là.
Je suis 100% d'accord, mais Sophie, j'aimerais aussi souligner, puis je pense que tout le monde le sait, là, le spotlight est souvent sur nos événements, parce que justement, ça me dérange pas de prendre le téléphone le matin et d'expliquer comment ça se passe.
C'est vrai.
Fait que, tu sais, ça arrive dans tous les festivals. puis je vais pas les nommer parce que tout le monde les connaît de toute façon. Puis des mosh pits, il y en a dans tous les festivals. L'infirmerie est pleine dans tous les festivals. Ça demande aussi, il faut. Je le prends dans le spotlight parce que je parle pour tous les organisateurs de festivals au Québec. Je pense que tout le monde se reconnaît ce matin là-dedans. Puis c'est pas facile. Mais en même temps, faut qu'on voit le positif. Ça fait rayonner, puis c'est pas une excuse pour pas qu'il arrive rien de mal. Mais ça fait rayonner la ville, ça fait rayonner le Québec. Puis, tu sais, on a tous été jeunes, on a tous été dans des parties comme ça. On sait comment ça se passe. C'est compliqué. Puis déjà que, justement, il n'y a rien arrivé, on touche du bas, on veut rien qu'il arrive, on n'est pas là pour qu'il arrive quelque chose. On est là pour que la sécurité des festivaliers, puis que tout le monde soit assuré, puis que tout le monde ait du fun.
Ouais. Puis je veux le souligner parce que ça nous arrive souvent comme journaliste, on tend une perche, on appelle les organisateurs, puis là tout d'un coup tout le monde se cache. Avant le festival, tout le monde donne des entrevues pour faire vendre des billets, puis une fois que le festival a eu lieu, tout le monde se cache derrière un tapis. Toi, ça a jamais été ton cas, t'as toujours fait face à la musique, puis je trouve que c'est important quand même de le mentionner et de le souligner. Merci beaucoup, Olivier Primo, puis rendez-vous en 2023 pour Métro 3.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On en a beaucoup parlé et puis finalement, ça a eu lieu en fin de semaine, des prix qui ont vraiment augmenté pour toute une variété de produits à la SAQ. Déjà que ça coûte cher, vous êtes un peu découragé parfois quand vous allez, ne serait-ce que dans la province limitrophe, hein, quand vous allez en Ontario puis que vous revenez, ou quand vous allez aux États-Unis ou quand vous allez en Europe, vous allez après à la SAQ, vous trouvez que les prix sont très élevés. Les prix ont augmenté de 3,7% en fin de semaine. On va essayer de comprendre pourquoi et les répercussions de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour.
Allô, Sophie.
C'était quand même sympathique d'avoir pensé à utiliser une longue fin de semaine où on sait très bien que les gens vont aller chercher des caisses de rosée ou pour fêter le long week-end, d'en profiter pour augmenter les prix. Comment on explique ça, cette augmentation des prix à la SAQ, Patrick?
Bon, évidemment, avec la pandémie et toutes les secousses que ça a entraînées, puis aussi la géopolitique particulière présentement, il y a toute la fameuse chaîne d'approvisionnement qui est perturbée, donc ça occasionne une augmentation de coûts à toutes les étapes. Il y a eu la sécheresse en Europe, il y a des difficultés de récolte. Ça, t'as des facteurs qui sont conjoncturels, mais donc la hausse comme telle, elle peut s'expliquer. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir d'où qu'on part. Et tu l'as mentionné un petit peu, c'est parce que les vins au Québec, ou même en tout cas dans le reste du Canada à un moindre degré, mais les vins au Québec, ça coûte très, très cher. Pourquoi? Parce que l'alcool est vendu essentiellement par un monopole au Québec et avec qui se garde une très, très grosse marge de profit. Donc, une bouteille de vin qui se vend 20$ à la SAQ, en gros, elle se prend une marge de profit de 50% ou si on pourrait faire une majoration de 100%. Donc, elle paye 10$, elle revend ça 20$ et dans le commerce de détail, il n'y a pas beaucoup de commerces qui peuvent se permettre ça. Quand tu parles de la France, justement, quand tu vas boire des vins en épicerie, en passant en France, il n'y a pas de SAQ. Là.
Oui, tout à fait.
Faut rappeler que dans la plupart des pays d'Europe, il n'y en a pas non plus. Là, c'est essentiellement une invention nord-américaine. Et là, les bouteilles, comme il n'y a pas cette majoration-là, puis il n'y a pas ce monopole-là non plus, il y a de la concurrence, et que les prix sont vraiment beaucoup moins chers. Ça c'est une première chose. Puis pour des bons vins aussi. Là. Moi, je suis allé en France récemment, là, puis écoute, il y a une bouteille de vin, j'ai payé 6€. 6€, ça fait 8$. Je l'ai trouvé tellement bonne, j'étais allé en chercher une deuxième, je l'aurais payé 20$ ici, j'aurais été très content. Et donc, il y a cet effet de monopole-là. Puis, il y a la façon dont on vend le vin aussi. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de mauvaises justifications pour garder le monopole de la SAQ. Il y en a une, entre autres, c'est des revenus pour le gouvernement.
C'est, on veut, oui, on ça, prélève des taxes. C'est quand même un bon argument parce que, évidemment, quand on parle, ça revient régulièrement. Hein, faut-il privatiser la SAQ? Et l'argument de ceux qui sont contre, c'est de dire, c'est une vache à lait. C'est-à-dire que tout l'argent, tous les bénéfices, même si on les trouve très gros, dont tu viens de parler à la SAQ, ça sert à financer notre système de santé, notre système d'éducation. Donc, est-ce qu'on veut se priver de ces revenus-là, Patrick?
Bon, absolument. Fait que c'est ça. Donc, d'abord, la question de la privatisation, c'est il y a aussi libéralisation. C'est simplement permettre un peu de concurrence pour voir qu'est-ce qui se passerait si les gens iraient ailleurs.
Permettre des marchands de vin, comme il y a en France, oui, c'est ça, des petites boutiques de vin.
Ça serait intéressant, mais c'est ça. Sur la question de la question de l'argent qui va effectivement dans le système de santé et d'éducation, c'est une très bonne question, mais est-ce que le gouvernement aurait besoin de maintenir toute cette très lourde infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des succursales, c'est d'avoir du béton, d'avoir des entrepôts pour vendre ça, parce que ça, il y a un coût pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, au Québec, l'essence est taxée. Et le gouvernement ne possède plus, parce que Petro-Canada, c'est plus une propriété gouvernementale, ne possède plus une seule station d'essence au pays. Ça les empêche pas de prélever des centaines de millions en revenus. Donc, si ce qu'on voulait, c'est juste des revenus, ben, parfait, c'est correct. Ça se défend tout à fait de dire c'est un produit de luxe, on va le taxer, mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir tout le réseau. On dit on a une taxe de X,
c'est intéressant.
C'est tout. On prélève ça et on s'évite aussi parce que, tu sais, le monopole, ça fonctionne aussi pour du côté du vendeur, mais il y a d'autres conséquences à ça. Par exemple, les employés de la SAC, quand on les compare aux autres employés du commerce de détail, ils sont vraiment payés très cher. Tu sais, c'est des salaires de 25 $ et plus avec des conditions sociales qui sont très favorables.
Mais c'est des employés de l'État, là, quand même, alors que normalement, dans une épicerie... C'est pas parce que t'es mal payé dans une épicerie, mais t'as pas des conditions salariales et sociales qui ressemblent à ça, là.
C'est le commerce de détail, c'est-à-dire que tu vends du... Tu sais, il y a d'autres des gens qui sont dans des boutiques spécialisées, c'est ça, pour vendre des ordinateurs, des vélos, il y a toutes sortes de choses qui se vendent. Ça prend quand même un certain nombre de qualifications que tu apprends, mais ça prend pas non plus des diplômes à n'en plus finir pour travailler dans la vente au détail. Et à peu près partout dans les commerces de vente au détail, les conditions de travail reflètent ça. Souvent des employés qui sont plus jeunes aussi, qui sont à temps partiel, bref. Et à la SAC, ben on est un petit peu dans un marché qui est un petit peu séparé parce que ben on peut se le permettre. Et donc, ça aussi, ça c'est une autre chose. Quand les salaires des employés de la SAC augmentent, ben c'est ce qui se retrouve moins dans les coffres du gouvernement. Et là, évidemment, on y va, ben oui, mais c'est le service, puis ainsi de suite. Encore là, j'ai aucun problème avec ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient aujourd'hui pouvoir dire, écoutez, moi, donnez-moi-en pas de service, je fais mes recherches pour prendre l'expression consacrée, il y a des applications pour le vin, et ainsi de suite. J'ai même pas besoin d'avoir de conseils. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que qu'est-ce qui arrive quand la SAC veut faire des gains de productivité? Parce que, puis c'est important les gains de productivité, hein, parce que c'est pour ça qu'on vit mieux que 50 ans en travaillant moins, là, qu'on gagne des meilleurs salaires en faisant des moins longues semaines, parce que les employeurs, les industries innovent. Et là, la SAQ veut, elle, centraliser puis automatiser ses commandes en ligne, puis donc d'abord, elle veut aussi sa variété de produits. Présentement, on parle de 3 500 produits, on vise 20 000 produits, c'est très bien.
Bel objectif, oui.
Ben oui, c'est ça, c'est donner du choix, c'est correct. Écoute, c'est correct un monopole qui se force pour donner du choix, là, sans la pression de la concurrence. Et on veut diminuer les délais de livraison pour passer 3-5 jours à 24 heures. Encore là, c'est une excellente nouvelle. Quelle a été la réaction du syndicat des employés de la SAC, ça, c'est il y a peut-être une semaine, 10 jours, c'est on est contre transformer la SAQ en machine à distribuer des bouteilles.
Ben là, c'est hallucinant! Bienvenue au 21e siècle, les amis, là. On vit à l'époque d'Amazon, et veut pas, c'est Amazon qui donne le « là ». C'est-à-dire, c'est eux qui mettent la formule étalon, et toutes les autres entreprises, tous les autres organismes doivent se mettre au diapason. Donc, quand on parle de livraison dans les 24 heures, puis que t'es contre... Mais est-ce qu'il n'y a pas une question plus fondamentale encore que ça, que même plus fondamentale que toutes les questions qu'on se pose depuis le début, Patrick? Qu'est-ce que le gouvernement a d'affaires à faire du commerce de détail? Point à la ligne, ça devrait être ça. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire du commerce de détail?
Ça date de la prohibition. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui est nord-américain. C'est que là, il y avait des questions de santé publique. Quand on a permis la vente de l'alcool, c'était... À ce moment-là, la commission des liqueurs, puis c'était vendu derrière le comptoir, puis dans des petits sacs bruns, puis c'était
on se rappelle de ça.
C'est ça. Après ça, il y a eu la régie des alcools, puis là, évidemment, la SAC est passée, là, finalement, c'est devenu une célébration. Le vin, les alcools, c'est associé à notre hausse du niveau de vie, le bon temps. Mais au départ, c'est un relan de la prohibition, puis on est encore pris avec. Et donc, comment sortir? Ben là, évidemment, tout privatiser d'un coup, ça serait difficile à faire. On peut commencer par ouvrir les vannes, puis juste permettre de voir ce que la concurrence ferait, notamment sur le choix, sur l'offre de service, sur les produits. Il y a encore un acheteur unique qui décide à la SAC qu'est-ce qui va être vendu du Québec partout ailleurs, dans toutes les boutiques au Québec. Quand on va aux États-Unis, par exemple, on voit, il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis, ceci dit, il y a des liquor stores, mais dans certains États, la vente d'alcool est libéralisée. C'est le cas de New Jersey, par exemple. Puis d'un magasin à l'autre, ça se ressemble pas pantoute. Tandis qu'ici, bien évidemment, il y a quelque chose, c'est mieux qu'avant, là, on n'est pas en Union soviétique, là, mais je veux dire, là, c'est quand même un petit peu plus uniformisé. Puis aussi, pour revenir du côté du syndicat, tu sais, la préoccupation du syndicat, c'est intéressant parce qu'il disait sur la volonté de rendre le choix plus grand, puis aussi de réduire les délais de livraison avec l'automatisation, c'est on n'a aucune garantie que les emplois vont être préservés. Je dis ben j'espère.
Mais oui. Mais j'espère.
C'est ça le but. Le but, c'est d'augmenter l'efficacité et de diminuer les coûts. Et là, ça, c'est de penser en envers parce que, tu sais, OK, on va faire vendre à l'État un produit que des gens veulent acheter parce que après ça, on va pouvoir envoyer de l'argent au gouvernement puis préserver des emplois. Ben, à ce moment-là, on va le faire dans tous les domaines. C'est pourquoi l'État ne vendrait pas des souliers, gérerait pas des épiceries, gérerait pas des voitures. Donc, c'est une drôle de façon de penser. Et en plus, on est en pénurie d'emplois. Donc, c'est pas comme si, tu sais, on manque de monde. Fait qu'on peut-tu justement faire des gains ou est-ce que c'est permis? Fait qu'en tout cas, tu sais, quand l'État s'embarque là-dedans,
oui, mais c'est aussi
quelque chose d'un petit peu étrange.
Et je trouve, je veux pas taper sur la tête des syndicats, mais on voit que c'est vraiment un syndicat qui défend l'existence d'un syndicat. Je veux dire, c'est comme tu peux à la fois être un syndicat et un peu penser au bien collectif, à arrêter de regarder juste ton nombril, parce que si ton seul objectif c'est de préserver des emplois de tes membres. Ben je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, bienvenue au 21e siècle, il y a d'autres prérogatives dans la société que juste de maintenir des emplois extrêmement bien payés. Puis quand ils disent on veut pas devenir juste une machine à distribuer des bouteilles, ben c'est parce que la SAQ c'est aussi ça. Tu sais, c'est pas vrai que dans n'importe quel autre commerce ça se résume à ça. Puis tout d'un coup, quand tu rentres dans un truc du gouvernement, il y a comme une plus-value. Je veux dire, je sais pas, moi,
tu as tout à fait raison, Sophie, parce qu'il y a des produits, tu sais, il y a certains vins, là, je suis sûr que tu as des préférences, moi j'en ai, on les a achetés 10 fois, je suppose me leur faire conseiller, je veux juste
à chaque fois,
point, puis je le prendrais dans une machine distributrice, je serais parfaitement heureux. Mais il peut y avoir des différents modèles de vente, mais c'est plus difficile de se développer dans un système comme celui-là.
Oui, puis de toute façon, je m'excuse, mais il existe une telle chose que des spécialistes du vin. Je pense à nos collègues des méchants raisins ici à Cube Radio à Québécois, Nadia Fournier, le guide du vin. Je veux dire, c'est rempli de Élise. Je veux dire, c'est rempli de gens. Véronique Rivet. Je veux dire. C'est pas vrai que les gens vont dans une SAQ pis ils se disent « Eh mon Dieu, j'ai-tu assez hâte de rencontrer mon conseiller de la SAQ pour qu'il me dise... » Je veux dire, les gens se rendent dans une SAQ en ayant fait imprimer la chronique de Véronique Rivet, en ayant fait imprimer la liste des vins de moins de 20$ du Journal de Montréal, du Journal de Québec, puis après ils vont à la SAQ pis ils disent « Pouvez-vous me donner tel vin? » Je veux dire, c'est ça la réalité, Patrick, là?
Oui, absolument. Puis, tu sais, il n'y a rien qui empêche. C'est ça qui serait intéressant. C'est si on permettait à des cavistes, il y a certainement des cavistes qui pourraient se développer dans des marchés de luxe, par exemple. C'est sûr, tu vas acheter un cognac, ça coûte cher. Tu connais pas ça. Là, peut-être, effectivement, là, tu vas avoir besoin de faire des broussailles un petit peu. C'est correct aussi. Mais ça va se faire naturellement. Tu vas avoir des boutiques haut de gamme, tu vas avoir des boutiques moins haut de gamme, oui. Puis tu vas avoir des machines distributrices. Mais là, présentement, c'est pas tout à fait comme ça que le syndicat voit ça, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Ça risque d'être comme ça pendant un moment, puis l'alcool va continuer à coûter cher au Québec.
Vive le modèle québécois! Hein? Vive le gouvernement là, qui était là, qui veut nous protéger, parce que l'alcool, c'est dangereux. L'alcool, faut faire attention, là, faut cacher ça. On a l'impression d'être justement d'être en Afghanistan avec le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Tabarnouche. En tout cas, écoute, je veux absolument qu'on prenne quelques instants. Non, pars-moi pas sur la SAQ, parce que, écoute, en tout cas, c'est pas pour rien que je suis né en France. Puis où est-ce que je suis né en France? À Bordeaux. Bon. On ne dira pas à une Bordelaise quel genre de vin elle a le droit de boire, puis quel genre de vin elle n'a pas le droit de boire. Puis voilà. Bon, même si, voilà, de ces temps-ci, c'est plus de l'eau que je bois que du vin. Donc, écoute, je veux absolument qu'on parle de cette histoire-là. 32 000 constats qui ont été émis pendant la pandémie pour non-respect des mesures. Beaucoup de bureaucratie pour pas grand-chose, Patrick, hein?
Oui, puis j'en parlais, c'est une nouvelle qui est passée inaperçue, là, c'est sorti dans le soleil là, il y a peut-être une dizaine de jours, là, sous la plume d'Élisabeth Fleury. 31 845 constats qui ont été donnés pour les mesures, le non-respect des mesures sanitaires. 50 millions le total des amendes, c'est énorme. Il y a 18 000 de ces constats-là, surtout qui ont été remis pour le couvre-feu, le non-respect du couvre-feu, donc plus que la moitié des constats, en fait, je devrais dire le non-respect des deux couvre-feux, parce que le Québec se distingue, on est le seul endroit au Canada où il y a eu un couvre-feu, mais nous, on n'a pas fait une fois, on l'a fait deux fois. Mmh. Et ce qui est doublement dommageable là-dedans, puis un peu tragique, c'est que les quartiers défavorisés sont surreprésentés, donc des gens qui sont plus difficiles à rejoindre, ou des fois des problèmes des endroits où c'est pas nécessairement facile, où les gens ont peut-être plus besoin de sortir de chez eux pour toutes sortes de raisons. Il y a des constats qui ont été remis aux itinérants aussi. C'est pas des milliers, mais c'est quand même quelques centaines. Près de 300 constats aux itinérants,
mais,
évidemment.
Mais ça, c'est absurde. Mais là, comment tu fais ça?
Par définition, comment tu veux faire pour respecter un couvre-feu quand tu es un itinérant? Là, tu peux aller dans un refuge, mais c'est plus compliqué que ça. On se rappelle, dans le premier couvre-feu, il y avait dès que ça avait été dit qu'elle allait avoir un couvre-feu à Montréal, où évidemment on connaît la réalité de l'itinérance, on a levé la main du côté de la santé publique et de la ville, oui, pour dire, écoutez, c'est pas une bonne idée, là, ça va causer des problèmes. Là. La santé publique l'avait dit par en dessous, on l'a appris un an plus tard, la ville, elle l'avait dit un petit peu plus fort, Mme Plante. Et qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, il y a un homme, une personne itinérante qui est morte, qui a eu peur de la police, qui s'est caché dans une toilette extérieure pendant qu'il faisait très, très froid. Et qui en est morte. Et malgré tout, on a refait un couvre-feu quand même une année plus tard. Et là, après ça, tu as toutes les conséquences bureaucratiques, c'est-à-dire que il y a des amendes qui ont été contestées. Ça pourrait potentiellement donner lieu à 15 000 procès. 15 000
Mais
procès.
Mais la bonne nouvelle, Patrick, c'est que notre système de justice est pas du tout engorgé. Hein, il n'y a pas du tout pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas des procès qui sont remis à cause de l'arrêt Jordan, il n'y a pas un manque de greffière, il n'y a aucun problème. Fait que, regarde, amenez-en des causes. 15 000 procès, il n'y a pas de problème, Patrick.
Tu dis, écoute, moi, je l'avais dénoncé la toute première fois, quand il avait été instauré, je me rappelle, j'avais dit, sur le coup, j'avais dit, écoutez, on va voir, peut-être que c'est ça que ça prend pour donner un coup de fouet. Et là, frapper l'imaginaire. Et rapidement, ce qu'on a vu, c'est que l'évolution des cas était la même partout au pays, c'est-à-dire que ça descendait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le couvre-feu. Et là, on était plusieurs à dire, enlevez ça, ça n'a pas d'allure, c'est contre-productif, ça envoie un message aussi, c'est bien trop fort, puis on ne sait pas au mauvais endroit. On l'a quand même maintenu, il n'y avait aucune base scientifique pour ça. On a enduré ça pendant des mois. Évidemment, on l'a remis cet hiver encore. Puis, tu sais, quand tu parles de tirer dans le pied là, à plusieurs niveaux, parce que, ça fait complètement décrocher des gens, des mesures sanitaires qui auraient été plus ciblées puis au bon endroit, qui auraient fait une différence. Et en plus de ça, on s'en va engorger le système judiciaire. Écoute, c'est comme gâchis bureaucratique. Tu sais, je rappelle là quand même, là, quand Dr. Arruda, cet hiver, quand il a reparlé, quand on lui a dit, écoute, faut faire de quoi, et là, on a instauré un couvre-feu là, en catastrophe alors que les hôpitaux étaient en train de se remplir et on ne savait plus quoi faire pour stopper ça. On a fait ça le 31 décembre. Avant la conférence de presse qui avait été tenue la veille, 6 heures avant, Dr. Arruda il a écrit à ses subordonnés, à la direction de la santé publique, « Avez-vous des études pour justifier le couvre-feu? » Ça, c'était là, un an plus tard, couvre-feu version 2.0, on veut le réinstaurer, on est 6 heures avant le couvre-feu, on cherche encore des études pour le justifier, on se fait répondre en milieu d'après-midi, il n'y en a pas, et on le fait pareil, puis on se ramasse après ça avec le gâchis, écoute, d'un bout à l'autre, là, c'est formidable.
Ouais, écoute, vraiment, découragé par tes deux sujets d'aujourd'hui.
Désolé.
La SAQ, les constats. Oui, s'il te plaît, essaie de nous remonter le moral au lieu de nous le miner, notre moral. Merci beaucoup, Patrick Derry, donc chroniqueur ici sur les ondes de Cube Radio et analyste de politique publique. Bon, on se retrouve jeudi. Merci, Patrick.
Bonne journée, à bientôt.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'est ce dimanche, pendant le congé, qu'avait lieu la grande finale internationale de la fameuse dictée PGL. Ça avait lieu à l'UQAM. Il y avait 80 finalistes qui venaient du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Et c'est l'occasion de réfléchir aussi à la qualité du français parce que, croyez-le ou non, il y a encore 40% des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Si vous voyez un petit peu passer des courriels ou sur les médias sociaux, c'est rempli de fautes. Comment on peut améliorer l'orthographe des jeunes Québécois? On va en parler avec Olivier Bertin-Mailleux, qui est directeur général justement de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Monsieur Bertin-Mailleux, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
De façon empirique, c'est facile de le voir, les courriels qu'on reçoit, les communiqués qu'on reçoit parfois, si on regarde sur Facebook, sur Twitter, les gens font beaucoup de fautes qui, comme chacun sait, ça s'écrit P-H-O, accent circonflexe, T-E. Comment on explique ça, qu'il y a 40% des élèves qui échouent en orthographe à la fin du secondaire au Québec?
Mais je pense que c'est une question qui est complexe, mais dans l'ensemble, quand on reprend un peu ce qui a été étudié par le gouvernement du Québec sur le lien entre la motivation à lecture durant l'enfance puis le rendement dans la langue d'enseignement à 15 ans, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment la pratique, donc la lecture, l'écriture, qui permettent d'améliorer le sentiment de compétence dans une langue. Et ça, j'ai l'impression que peut-être avec les médias sociaux, j'ai l'impression que, en effet, ça se perd un peu parce que le français, c'est une langue complexe, qui a beaucoup de nuances, c'est ce qui en fait aussi une langue très intéressante, c'est ce qui fait que les dictées fonctionnent très bien, comme la dictée PGL, parce qu'on doit réussir à comprendre le sens des mots dans une phrase. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il y a beaucoup d'élèves qui perdent un peu d'intérêt.
Alors, vous avez publié dans Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dans la section « Faites la différence » qui s'intitule « Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français ». C'est quoi les outils que vous suggérez, M. Bertin-Mailleux?
Oui, ben, je pense qu'à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, on est en réflexion en ce moment, parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements au niveau des technologies, au niveau des façons de communiquer. On l'a vu avec la dictée, là, c'était le retour en présentiel après 2 ans en virtuel. Je pense que ce qui est important, c'est d'amener le plaisir de lire et d'écrire souvent pour développer des automatismes. Et donc ça, c'est un peu comme un athlète de haut niveau qui va s'entraîner régulièrement pour faire sans arrêt le même geste pour bien le maîtriser. Puis je pense qu'en lecture, en écriture, c'est ça qu'on doit ramener. Est-ce que c'est avec des textes longs? Est-ce que c'est avec des textes courts? Est-ce qu'on peut mettre des technologies en place, par exemple de l'intelligence artificielle, pour identifier les erreurs que les élèves font et proposer des activités pour corriger? Donc, il y a plusieurs pistes qu'on est en train d'explorer. Mais ce que je dirais, c'est que c'est vraiment le plaisir de lire et d'écrire souvent, puis de montrer aux enfants les ressources disponibles en grammaire et en orthographe pour aller chercher eux-mêmes des réponses.
Ouais. Vous rappelez dans votre lettre quelque chose de très important, c'est que la fondation dont vous êtes le directeur, donc la fondation Paul-Gérin-Lajoie, lui, il a été ministre de l'Éducation, c'est quelqu'un pour qui la connaissance du français et l'amour du français était extrêmement important. Est-ce que vous le sentez, cet amour du français? Parce que, bon, vous venez de nous dire le français, c'est une langue qui est compliquée, les règles d'orthographe, les règles grammaticales sont parfois complexes. Est-ce qu'il y a une façon de faire aimer le français aux jeunes malgré sa complexité?
Tout à fait. Ben c'est tout à fait. Et puis Paul-Gérin-Lajoie, c'était vraiment un visionnaire qui lui était dans la solidarité et dans la langue française. C'est lui en 1991 qui a eu la vision de cette dictée, puis c'est pour ça que maintenant on réfléchit à comment on va aller de l'avant. Mais ce qu'on voit, c'est que les enfants, là on l'a vu en fin de semaine, là, les 76 finalistes sont passionnés par la langue, ils étaient confiants de connaître les mots, ils étaient contents aussi de pouvoir tisser, construire des ponts avec les autres étudiants des autres délégations. Donc c'est un peu le terrain de jeu que Paul-Gérin-Lajoie nous a laissé et qui nous permet de travailler sur cette question-là.
Une dictée, est-ce que c'est la seule façon? C'est-à-dire que, bon, les élèves dans les écoles, peut-être que, justement, la dictée, c'est le pire moment de leur cours de français. Mais vous avez réussi, avec la dictée PGL, à rendre ça un peu comme oui. comme Star Academy. C'était un peu le Star Academy de la langue française. Donc, vous avez réussi quand même à faire en sorte que la dictée, ce soit sexy, là, que ce soit attirant, que ce soit amusant. C'est le côté ludique aussi qui fait toute la différence.
Tout à fait. Puis en fait, là, on parle beaucoup de la dictée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la Fondation, on développe chaque année, depuis 31 ans maintenant, du contenu pédagogique. On travaille avec les enseignants, on travaille avec les élèves. Et donc, le processus de la dictée commence en janvier, en fait. Donc là, on parle la finale le 22 mai, mais de janvier à mai, on a des exercices, on a du matériel sur toutes sortes de thématiques. Ça peut être le développement durable, le vivre ensemble... Donc, toutes sortes de thématiques qui peuvent motiver les élèves à mettre des mots en contexte dans des phrases et à se préparer au piège de la langue française et à la dictée. Donc, c'est sûr que là, on est rendu un peu à l'aspect Star Academy, mais il faut penser qu'au début du processus, il y avait 345 000 élèves qui ont repris tout ce matériel pour avancer.
Oui. Quand on voit passer sur les médias sociaux beaucoup d'erreurs communes, les gens qui font pas la différence entre SA, S-A, C-C-D, A... S apostrophe A, c'est vraiment, on a l'impression que que l'orthographe se perd, que les gens savent plus écrire. Et le rôle des médias sociaux aussi, les jeunes qui s'envoient des SMS, TKT pour t'inquiète pas, c'est vraiment, il y a comme un nouveau langage que les jeunes parlent. Est-ce que vous pouvez en tenir compte quand vous faites la promotion du français? Est-ce qu'on peut jouer avec ça, avec les codes des jeunes?
Je pense qu'on peut jouer avec les codes si, par contre, à la base, le jeune connaît la version originale, est capable de l'expliquer, capable de faire des recherches. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça se fait. Le problème, c'est quand le jeune ne connaît pas la vraie version du mot. Mm-hmm. Là, ça affecte l'apprentissage. Donc, je pense quand même que c'est important au niveau des écoles, au niveau de la lecture à la maison, de revenir à la base du français, puis d'essayer de comprendre ces nuances, parce que il y en a beaucoup. Puis, pour vous donner un exemple, dans la dictée, en fin de semaine, il y avait le mot « doux », donc « d-o-u-x », mais ça pouvait être aussi « d-o-u », ou le mois d'août, « d-a-u-o-t ». Et donc, c'est très, très important.
« A-o-u-t », je vais juste vous reprendre dans votre dictée, « a-o-u-t ». Désolé, Olivier, mais je ne pouvais pas la laisser passer. Mais je comprends, c'est des homonymes, donc c'est sûr que c'est des mots à l'oreille. Mais si on écrit à l'oreille, on va écrire des OU de toute façon, puis des OU, ça n'existe pas en français.
C'est ça, et ça affecte quand même le sens de la phrase affecte le mot, et le mot affecte le sens de la phrase. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait quand même un français de base, de qualité, qui soit enseigné, et que ce soit pas juste des acronymes. Comme dans les médias sociaux. Donc, je pense à un peu moins de médias sociaux et plus de lecture.
Ah, ben ça, j'adore ça. Moins de médias sociaux, plus de lecture. Parce que c'est ce que je me tue à répéter à un certain ado dans mon entourage, que je ne nommerai pas ici. C'est que plus on lit, plus on voit les mots et la mémoire, ça s'incruse dans notre mémoire. On prend une photo du mot et la prochaine fois qu'on le rencontre, ben on sait comment l'orthographier. Si on n'est jamais exposé, ben on ne reconnaît pas le mot, ça ne rentre pas dans notre mémoire photographique. Donc c'est extrêmement important. Mais ça s'applique pour les ados, ça s'applique pour les adultes aussi, parce que si vous saviez les horreurs que je vois passer des fois. Monsieur Olivier Bertin-Mailleux, merci beaucoup. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre dans la section « Faites la différence ». Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français. Vous êtes directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Merci beaucoup.
Merci, Madame Durocher.
Alors, d'où D-O-U-X, D-O-U, accent grave, D-A-O-U, circonflexe, T. Vraiment, j'espère que ce moment qu'on a passé ensemble a été doux dans tous les sens du terme. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde. Je voudrais remercier Charlotte, Frédéric, Florence et Jean-Nic à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain.
Cube Radio.